Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Comment évoquer l'histoire avec un grand H sans être ennuyeux? La bande dessinée sait très bien le faire et n'hésite pas à s'emparer d'événements ou de personnalités emblématiques et parfois controversées. Ainsi, Loulou Dedola s'est-il attelé au récit de la vie de Mustafa Kemal, fondateur de la Turquie dite moderne, un Atatürk que son lointain successeur Tayyip Recep Erdogan voudrait renvoyer aux oubliettes. Philippe Richel, lui, s'est attaqué à la guerre d'indépendance de l'Algérie en se focalisant sur les individus, le drame vécu à hauteur d'homme. Quant à Gyps, il croque avec humour le petit peuple de son pays d'origine avec ses Algériades. L'histoire en bande dessinée, une émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio.
Cheval, pas blanc, oui.
Nous sommes en compagnie de Loulou Dedola, auteur, compositeur, interprète. Bonjour.
Merhaba, Éric Bataillon.
Et vous êtes également scénariste de bande dessinée. Vous signez Le Père Turc, publié chez Glénat Éditions. Alors, Le Père Turc, Loulou Dedola, c'est évidemment Mustafa Kemal. L'histoire est racontée par une vieille femme, affiffée, bourgeoise turque réfugiée en France, qui s'adresse à son neveu qui, lui, n'a jamais vu la Turquie de ses grands-parents.
Dans cette histoire, affiffée, notre héroïne décide d'utiliser le mythe de Mustafa Kemal pour rattraper un jeune garçon qui vit donc en France, à Athénée, dans une commune de l'Ain, une ville désindustrialisée, rongée par le chômage et plein d'autres mots. Elle décide d'utiliser Mustafa Kemal pour le rattraper et le sortir de la spirale de la délinquance et de l'islamisme.
Oui, car ce jeune ado qui vit donc en France, mais qui est d'origine turque, il quitte l'école et il est happé par des tentations qui sont des tentations dangereuses.
Oui, mais comme une immense partie de notre jeunesse, et il y a un déni là-dessus, hein, on dit il y a quelques milliers d'islamistes, etc. Non, il y a une immense partie de notre jeunesse, surtout la jeunesse issue des banlieues, dont je viens aussi, qui est victime de cette tentation. Et donc, lui, il est victime de la tentation islamiste. Et en même temps, comme beaucoup de jeunes aussi, en raison de la crise, du manque de mobilité sociale, il est tenté par les trafics et le trafic de drogue.
Alors, il découvre Mustafa Kemal, qu'il ne connaissait pas. Quel personnage découvre-t-il, justement?
C'est le récit de la vie de Mustafa Kemal par une femme kémaliste passionnée à un jeune garçon. Donc, c'est une hagiographie. Voilà, c'est pas une biographie de Kemal, surtout pas. C'est pas non plus le travail d'un historien, j'ai pas cette prétention-là. C'est une hagiographie, c'est le récit idéalisé du parcours de Kemal dans ce que Kemal Atatürk, et là tout le monde en convient, a de plus grand, a de plus fort et de plus bénéfique pour ce qu'a été la Turquie et ce qu'elle pourrait redevenir. Voilà, c'est-à-dire son côté féministe, humaniste, républicain, etc.
Oui, c'est la vie de Kemal Atatürk, grosso modo, entre la Première Guerre mondiale et 1928, lorsqu'il accède au pouvoir.
Oui, et même un peu au-delà, parce qu'on fait référence par moment, notamment à la création du nom patronymique, puisqu'à l'époque, sans rentrer dans le détail, il n'y avait que des prénoms. Lui, d'ailleurs, s'appelait Mustafa. C'est son prof, hein, Kemal Bey, qui lui a donné le nom de Kemal, qui signifie perfection, parce que c'était un génie en mathématiques. Et il a été découvert par son, je crois que c'est son prof. Kemal Bey était prof à Monastir, en Macédoine, qui est aujourd'hui la ville de Bitola. Et ce qui faisait partie à l'époque de l'Empire Ottoman. Voilà. Et puis il y a aussi référence à d'autres dates, d'autres événements importants.
Alors cette histoire est aussi l'occasion de nous rappeler que la Turquie était, il y a un siècle, un pays très conservateur dans lequel le sultan privilégiait ses intérêts et s'appuyait sur les confréries religieuses pour gouverner. Une situation que Mustafa Kemal n'appréciait pas et va bouleverser.
Ah bah il va complètement révolutionner le pays. Bon, il y avait déjà eu 1876 avec une première constitution, je dis bien une première constitution, avant c'était le pouvoir absolu, donc on avait la monarchie, mais une monarchie plus religieuse que les autres monarchies encore, puisque c'était la représentation de Dieu, etc. Et puis il y a eu 1908, que je me trompe encore une fois, je suis pas historien, avec la révolution des jeunes turcs, auquel n'a pas participé Mustafa Kemal. Encore une fois, c'est très important de le dire quand on sait ce qui est advenu de cette révolution. Et puis, il y a eu le rétablissement, je crois encore en 1918, de cette constitution de 1876. Donc une première fois en 1908, elle a été rétablie, et une deuxième fois en 1917, je crois. Mais en dehors de ça, c'est un pouvoir absolu, religieux, des privilèges hallucinants, d'un empire chancelant, malade, et qui n'apporte plus rien aux populations qui sont régies par cet empire.
Alors Mustafa Kemal, lorsqu'il accède peu à peu au pouvoir, a un certain nombre d'ambitions, notamment il voudrait calquer la société turque sur les sociétés occidentales, et notamment en termes de libertés individuelles et d'égalité, et aussi une façon d'ancrer la Turquie dans l'Occident, c'est par exemple de changer l'alphabet arabe pour l'alphabet latin.
C'est ce qu'il fait en 1928. Ses conseillers lui disent qu'il faut 5 ans pour le faire. Et lui, intelligemment, parce qu'il sait qu'en 5 ans, il y aura des allées, des venues, il décide de le faire en 3 mois. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Après, sur le fond, l'idée de calquer la société turque sur la société occidentale, disons que Kemal a une vision moderne de la Turquie. Voilà, il a lu des auteurs turcs comme des auteurs occidentaux qui évoquent la création d'une société moderne, démocratique, républicaine, etc. Il est porté par l'humanisme, mais on peut renvoyer l'humanisme et la déclaration des droits de l'homme aux premiers écrits sur ces questions-là de la communauté Alevi turque. Sans rentrer dans le détail, la communauté Alevi est une communauté musulmane, mais extrêmement progressiste, qui parlait déjà aux alentours du XIIIe siècle de déclaration des droits de l'homme.
Mais est-ce qu'on peut dire que Mustafa Kemal est un nationaliste qui impose un pouvoir fort, mais qu'il se sert de son pouvoir pour finalement moderniser la société ?
On peut tout dire. Quand on est un démocrate, on accepte que les gens disent tout ce qu'ils ont envie de dire, et c'est mon cas.
Mais il bouscule vraiment les choses. Par exemple, l'école laïque qui vient remplacer l'école religieuse.
Que Kemal soit un nationaliste, non. Kemal a beaucoup influencé le général de Gaulle, hein, vous le savez, tout le monde le sait. Et de Gaulle, que je déforme pas sa parole, disait « Le patriote, c'est celui qui aime son pays, le nationaliste, c'est celui qui aime pas celui des autres. Hein. » Je fais mal la citation, mais grosso modo, c'est ça l'esprit. Moi, je pense que Kemal, c'est plus un patriote qu'un nationaliste. Et je pense que de pouvoir faible, il n'y a pas eu entre les deux guerres, si ce n'est aux dépens des peuples concernés. Voilà. Considérer qu'il y ait des possibilités de gérer de manière très démocratique et... Non, ça me paraît pas lucide. Même Churchill, qui est quand même un démocrate, malgré tout, reconnaissait que n'a jamais attaqué Kemal sur ces questions-là.
Afifé, notre bourgeoise se bat dès son jeune âge pour les droits des femmes accordés par Mustafa Kemal, avec cette réflexion que l'on lit pratiquement dans les premières pages de l'ouvrage. Ces droits, la femme devra les défendre car le futur ne nous préserve pas de retour en arrière. Est-ce prémonitoire pour ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, mais c'est fondamental. Les droits, c'est jamais acquis.
Et aujourd'hui, ces droits sont remis en question.
Mais ils sont remis en question, mais même chez nous ici, pas en termes juridiques. Mais dans les faits, les filles dans les quartiers populaires ont moins de liberté qu'elles n'avaient il y a 30 ans. Et je combats alors là fermement, notamment les indigènes de la République, qui présentent le port du voile et ce type d'accessoires comme un droit ou une liberté. Ça participe aussi ça de la réduction de la liberté des femmes. Et le kémalisme à ce titre, dans le récit hagiographique que j'en ai, hein, c'est presque une sanctification de Kemal ce livre, puisque c'est une vieille femme qui raconte à un enfant. Mais il a cette qualité, cette vertu de mettre la femme et la liberté de la femme, pardon, au centre de la société moderne.
Merci Loulou Dedola, auteur de bande dessinée.
Merci, et puis à très bientôt et bonne lecture à tous.
Et je renvoie donc à la BD que vous publiez chez Glénat, Le Père Turc à la recherche de Mustafa Kemal, dessin de Lelio Bonacorso. Philippe Richel, bonjour.
Bonjour.
L'éditeur Glénat a publié le premier tome Les Beaux Jours de votre saga Algérie, une guerre française. La narration démarre en novembre 1943. Avec la fuite d'une mère et de son fils devant l'avancée allemande en Bourgogne, en France métropolitaine, donc, destination l'Algérie, où est installée une partie de la famille, des agriculteurs. Est-ce pour préciser le lien qui unit encore à cette époque les deux parties de chaque côté de la Méditerranée ?
Les liens sont assez lointains, et si le jeune Paul se réfugie en Algérie, c'est parce que son père est résistant gaulliste en métropole, et donc il trouve asile chez son cousin André, qui, comme vous l'avez dit, est fils d'un colon relativement important, vivant à une demi-heure de route d'Alger. À cette époque-là, c'était encore la campagne, hein, c'est fort de l'eau, c'était très rural, avec des tas d'exploitations agricoles, des maraîchers, etc. Maintenant, c'est devenu une banlieue populaire, une extension de la ville d'Alger. Et donc, autant le père de Paul est un gaulliste pur sucre, autant son beau-frère, le père d'André, lui, est plutôt pétainiste. On les appelait les Français d'Algérie. Ce ne sont pas des métropolitains, ce sont des gens qui étaient souvent installés là depuis les débuts de la colonisation de l'Algérie, donc depuis 1847 par vagues successives. Donc il y a des implantations très longues, des familles qui sont déjà à plusieurs générations. On ne peut plus vraiment parler de métropolitains, mais le terme usité, c'est Français d'Algérie en réalité.
Est-ce que la situation était aussi idyllique que vous la présentez dans les premières pages de cet album ?
Elle était idyllique pour les enfants. J'ai interrogé parmi les témoins que j'ai questionnés, j'ai interrogé un monsieur qui était gamin, lui, au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie. Et il garde des souvenirs d'enfance absolument merveilleux. Maintenant, il était très jeune et bien sûr, il voyait de temps en temps des injustices vis-à-vis des musulmans, des travailleurs musulmans, de la population musulmane en général, mais il n'en avait pas vraiment conscience. Donc certainement que la vie des colons aisés était très agréable parce que le pays est magnifique, parce qu'ils étaient aisés, voire fortunés. Maintenant, il faut savoir aussi que beaucoup de pieds noirs étaient ce qu'on appelle des gens du peuple, sans connotation péjorative, étaient des gens modestes qui vivaient à peine mieux que bon nombre de musulmans. Et la situation, bien sûr, comme vous le soulignez, n'était pas idyllique, puisque les musulmans n'avaient quasiment aucun droit civil et politique, d'une part, et d'autre part, que leur salaire était nettement inférieur à ceux des Français d'Algérie à travail égal.
La révolte sanglante de Sétif, le 8 mai 1945, le jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, est-ce là le révélateur du malaise ?
Pour moi, c'est le révélateur du malaise et c'est même, pour moi, l'événement marquant du début de la guerre d'Algérie. Vraiment. Donc, il y a une manifestation à Sétif de centaines d'Algériens qui revendiquent l'indépendance. Déjà, ils sortent le drapeau vert.
Qui est interdit.
Qui est interdit à l'époque, tout à fait. La manifestation dégénère et pendant une semaine, ça tourne au massacre. Une centaine d'Européens seront tués par la population musulmane et en représailles, l'armée française envoie le général Duval qui sort l'artillerie lourde. On parle à l'époque de 1000 victimes musulmanes. Un auteur, plus récemment un historien, a cité le chiffre de 15 000 et le FLN, lui, cite le chiffre de 40 000 victimes musulmanes. Donc on voit la disproportion quand même entre, d'une part, les morts européennes et les morts musulmanes.
Alors on n'a pas parlé du préambule, la première page de cet album, cette fameuse réunion du 24 octobre 1954, donc un peu plus tardivement, qui réunit 6 hommes que l'on surnommera plus tard les fils de la Toussaint. Quel sera leur rôle dans le soulèvement algérien ?
Mais c'est un rôle majeur. Ce sont vraiment les instigateurs de la révolution. Certains vont aller jusqu'au bout de la guerre et même occuper des postes importants par la suite. D'autres mourront prématurément. Et ce sont vraiment 6 hommes en rupture de banc avec le parti indépendantiste nationaliste du fameux Messali Hadj, qui était un parti nationaliste assez radical. Mais face aux atermoiements et aux luttes intestines à l'intérieur de ce parti, ces 6 hommes se sont décidés à agir, je ne dirais pas en solo, mais en petite équipe. Et donc, ils ont lancé leur insurrection le 1er novembre 1954, en commettant des attentats à Alger surtout, mais aussi ailleurs dans le territoire. Et en l'occurrence, ce sont des petits attentats sans beaucoup de victimes. Mais c'est un événement, évidemment, très, très marquant. À côté de ces 6 hommes, il y a aussi le trio du Caire, dirigé par Ben Bella, qui sera, comme vous le savez évidemment, le premier président de la République algérienne en 62.
Un ancien joueur de foot.
Un ancien joueur de foot, mais il y en a beaucoup. Yassef Sadi, qui a été le chef opérationnel des réseaux terroristes sur Alger, était aussi un excellent joueur de foot, et je l'évoque d'ailleurs dans l'album.
Alors votre parti pris, Philippe Richel, c'est justement de ne pas prendre parti et de raconter cette guerre de tous les points de vue. Est-ce parce que ces événements sont encore dans beaucoup de mémoires et qu'ils ont marqué, qu'ils marquent encore profondément les relations entre la France et l'Algérie ?
Ce que vous dites est tout à fait juste, mais la raison pour laquelle j'ai adopté différents points de vue, c'est précisément pour donner une image complète de la complexité de la situation. Voilà, sans manichéisme, je me place du point de vue de chaque personnage, je me mets dans sa peau, j'essaye de le comprendre et de me mettre à sa place. Je veux dire par là que si j'avais été musulman dans les conditions que les musulmans connaissaient avant 54, il est possible que je me sois affilié au FLN. Si j'avais été pied noir se sentant trahi par De Gaulle, il est possible que je sois rentré dans l'OAS. Je raisonne comme ça, je me mets vraiment à la place des personnages. Et c'est vrai dans tous mes travaux d'ailleurs. La neutralité, la compréhension des personnages, de leur motivation, de ce qui peut les amener à changer de direction, à s'engager. Voilà.
Est-ce qu'il a été aisé pour vous de recueillir des témoignages pour construire cette bande dessinée ?
Pas tellement. C'est passé par énormément de lectures, à commencer bien sûr par la Bible d'Yves Courrière, mais aussi par des témoignages d'officiers supérieurs, notamment la biographie du fameux général Osarès, qui travaillait pour les services secrets en tant que capitaine à l'époque. Et puis j'ai rencontré des gens des deux camps, oserais-je dire, des musulmans, parfois très critiques envers le FLN, et puis des pieds noirs aussi.
On a l'impression que la guerre d'Algérie, c'est une double histoire. D'abord celle de deux nations qui s'affrontent, et au milieu, celle de personnalités individuelles qui sont ballottées au gré des événements. Est-ce également votre sentiment ?
Oui, tout à fait. D'un côté, on a les musulmans emmenés par le FLN qui rêvent de l'indépendance. Et puis alors, on a les Français de métropole qui, au départ, sont peu concernés jusqu'au premier massacre important commis par le FLN en 55, août 55 à Philippeville. Et puis surtout, la prise de conscience des Français de métropole, elle date de l'appel massif aux appelés du contingent, c'est-à-dire que des jeunes gars qui faisaient leur service militaire étaient envoyés presque sans formation se battre là-bas dans les maquis, dans des conditions pénibles. Et ce sont des soldats qui sont revenus bien souvent amers de cette tragique expérience parce qu'ils n'ont eu aucune reconnaissance, contrairement aux vainqueurs finaux de 40-45.
Et c'est là donc que l'Algérie devient une guerre française.
Et c'est là que l'Algérie, effectivement, devient une guerre française. Ouais.
Merci Philippe Richel, scénariste de la saga en bande dessinée « Algérie, une guerre française » publiée chez Glénat.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Gips.
Bonjour.
Vous êtes le scénariste et le dessinateur d'une bande dessinée qui s'appelle Alger et quelque chose. Ça peut être Alger rien, ça peut être Algérie, ça peut être oui. Alger Rennes, etc. Que racontez-vous dans ces bandes dessinées ?
Alors, ce sont des BD qui, selon le thème, donc Algérien, c'était un regard sur la société algérienne. Quand mes dernières années en Algérie, donc on remonte à la fin des années 90, début des années 2000. Et c'est un regard sur la société algérienne. Donc ça commence par la vie sexuelle des Algériens, qui me permet de m'étendre. Ensuite, je parle d'exil dans cet album-là. Algérienne, c'est plus un regard sur la position de la femme algérienne dans la société. Et ça m'a permis aussi de faire tout un rappel historique sur le combat féministe en Algérie. Donc de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui.
Mais alors, algérien, c'est en deux mots. Est-ce que l'Algérie ou Alger, c'est rien ?
Non, c'est un vieux jeu de mots que j'ai réutilisé, qui parlait de la primauté de la capitale sur le reste de l'Algérie. On disait en Algérie, il y a les Algériens et les Algérois, donc les habitants de la capitale. Et moi, j'avais dit, il n'y a plus de rois, il n'y a plus que des riens quand on parle de la population. Et c'était un peu au sortir de la guerre, etc. Donc c'est un album sur ces années-là, quoi.
Mais est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, avec les manifestations ?
Algérie a retrouvé le sourire en tout cas, a retrouvé l'espoir, c'est ça surtout. Algérie, ne serait-ce que ce qui est un des faits les plus marquants du Hirak et de toutes ces manifestations-là, c'est l'humour dégagé par les Algériens, un truc, toutes les pancartes, en fait toutes les trouvailles qu'ils ont eues, c'est plein d'espoir, plein d'humour, et on voit que les jeunes qui arrivent après nous, ils ont gardé cet humour qui est quand même très propre aux Algériens.
Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous ?
Ça a été, oui, très fort. Je pense que c'est une source d'inspiration pour tout le monde. Après, comment en parler pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Je pense qu'il faut un peu de recul. Alors, ça fait pour les dessinateurs au quotidien, c'est toujours très bien. Si on veut, pour l'instant, parler du Hirak en BD, c'est encore un peu juste parce qu'on ne sait pas trop... On n'a pas encore la finalité de l'histoire, quoi.
Mais pour commencer à comprendre la société algérienne, il faut lire Algérien, Algérienne et les autres bandes dessinées.
La BD, c'est toujours une approche rigolote et assez caricaturale, bien sûr, mais assez condensée d'un regard sur la société. Dans les années 70-80, il y avait Slim, donc pour les gens qui ont connu cette époque-là, c'était celui qui nous faisait le plus rire. Moi, j'arrive avec d'autres dessinateurs sur les années 90, les années 2000. Je pense que pour les années 2010-2020, il y a d'autres jeunes qui vont arriver pour parler de la société algérienne.
Et vous êtes optimiste ?
Toujours. Toujours.
Merci, Gips.
De rien.
Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. Rendez-vous samedi prochain à la même heure.